Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Le christianisme est-il de tout temps relégué dans la sphère des croyances personnelles et des jeux de pouvoir des institutions, ou, au contraire, est-il avant tout un phénomène social et culturel qui met en avant la promotion de la raison? Telle est la question de nos contemporains qui, eux, pour l'essentiel, pensent, dans la première branche de l'alternative, donc, que le christianisme est avant tout et doit être avant tout relégué dans la sphère des croyances religieuses. Telle n'est pas la conviction de cette histoire générale du christianisme qui vient d'être publiée au PUF et qui, elle, au contraire, pense que l'histoire du christianisme s'inscrit dans une histoire sociale et culturelle et qu'elle fait la promotion de la raison. Jean-Robert Mangat, bonjour.
Bonjour, Damien Le Guay.
Donc, vous êtes le maître d'œuvre de cette histoire générale du christianisme, projet lancé il y a 20 ans, qui maintenant a 3000 pages, 80 collaborateurs universitaires, une grande partie, donc 32 sur l'ensemble, sont des étrangers, qui couvrent 2000 ans d'histoire culturelle. Vous êtes, nous avons eu l'occasion de faire une précédente émission avec vous, vous êtes universitaire, directeur d'études à l'École pratique des hautes études et prêtre catholique. Alors, première question, quelle fut, selon vous, vous qui avez maîtrisé cette histoire générale du christianisme, quelle est, selon vous, l'ambition de cette histoire générale du christianisme qui semble rencontrer un certain succès, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on en est, semble-t-il, un deuxième tirage, et ce livre devrait être traduit dans différentes langues. C'est-à-dire que ma question est la suivante, c'est pourquoi, selon vous, cette histoire générale du christianisme rencontre certaines interrogations, questions, problématiques actuelles qui, sans doute, n'étaient pas actuelles il y a 10 ans.
Alors, je crois que le titre lui-même, Damien Le Guay, permet de répondre à votre question. C'est une histoire générale du christianisme. Il y a trois mots, histoire générale christianisme. Alors c'est une histoire. C'est une histoire, c'est pas un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un ordre alphabétique. Une histoire, c'est un ordre chronologique. C'est une histoire, et je pense que nos contemporains se plaisent à l'histoire. C'est le grand succès des livres d'histoire, des grandes collections historiques. Il me semble qu'à la différence de ce qui se passait dans les années 60, nos contemporains redécouvrent l'épaisseur de la durée. Alors la durée de leur famille, c'est le retour des généalogies, la durée de leur famille d'idées, c'est le retour des histoires de la France, des histoires régionales, et puis aussi de leur famille culturelle. Et en ce sens, l'histoire du christianisme se situe dans ce domaine des racines culturelles d'abord. Et une histoire générale, générale. Alors ça c'est, on m'a beaucoup posé de questions, puisque la première idée toute simple venait de ce que les presses universitaires de France ont publié jadis de grandes histoires générales, histoire générale des civilisations, histoire générale du protestantisme, histoire générale des sciences, histoire générale du travail. Et la première idée, il y a une vingtaine d'années, était d'avoir une histoire générale du christianisme. Et puis, nous avons réfléchi sur la spécificité de cette épithète générale. Ce n'est pas une histoire institutionnelle. Ce n'est pas une histoire de l'Église ou des papes, ce n'est pas non plus une histoire de la théologie, et ce n'est pas non plus une histoire de la sociologie chrétienne. Histoire générale, en français ou en allemand, désigne une histoire qui va prendre à la fois tous les aspects d'une société. Ce n'est pas une histoire du christianisme isolé, c'est une histoire du christianisme dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, pas seulement dans l'histoire de France ou de l'Europe, mais dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la planète. Et le fait est que le christianisme, peu à peu, s'est mêlé à l'histoire de tous les peuples de la planète. La planétarisation missionnaire du christianisme a fait qu'il n'y a pas un peuple de la planète qui n'ait eu affaire d'une manière ou d'une autre avec le christianisme. Et puis alors le christianisme. Alors là, c'est là la vraie question. Qu'est-ce que c'est que le christianisme? Est-ce que l'on a raison de parler d'un christianisme alors que l'on pourrait le mettre au pluriel, parler de différents christianismes? Alors, moi, je suis très intéressé à la mise au pluriel des catégories qui est souvent un moyen de traiter des questions de philosophie. Pour les mots en isme, je suis souvent plus sceptique au sens où le christianisme est quand même ce qui réunit en commun des gens autour d'un credo. On m'a demandé parfois comment définir le christianisme. J'ai d'abord répondu par une boutade. Le christianisme, c'est ce qui fait l'objet de l'histoire du christianisme. C'est une boutade. Et puis aussi, le christianisme, c'est ce que les autres appellent le christianisme. Les chrétiens sont les gens qui sont appelés chrétiens par les autres. Et donc, je pense que le christianisme s'inscrit dans l'altérité de nos sociétés. Les chrétiens, ce sont ceux qui ne sont pas des païens. Les chrétiens, ce sont ceux qui ne sont pas des musulmans, qui ne sont pas des juifs, qui ne sont pas des bouddhistes, qui ne sont pas des libres penseurs, qui ne sont pas des athées. Les chrétiens sont ceux qui sont définis par les autres comme tels. Alors, je crois que ces trois mots, histoire générale et christianisme, permettent d'expliquer le succès, l'opportunité d'un tel ouvrage qui a été commencé, vous l'avez rappelé, Damien Le Guay, il y a 20 ans, mais qui, comme les petits de la baleine ou de l'éléphant, a mis 20 ans de gestation, et c'est très bien. C'est très bien, même celui à qui ça aurait dû déplaire le plus, c'est-à-dire l'éditeur, les presses universitaires de France, ont reconnu que l'évolution de la société et l'évolution de la situation des religions dans la société a rendu possible un grand succès d'une histoire du christianisme en 2010, qui eût été, je pense, moindre en 1990.
Donc vous insistez au début dans votre introduction sur la nouveauté du projet, sur l'originalité. Et donc pour reprendre ce que vous dites que vous allez insister et que vous incitez donc dans cette histoire générale du christianisme sur l'impact du christianisme sur les cultures et que le christianisme a doté la pensée occidentale de structures conceptuelles. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'une part? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que le christianisme est, comment dire, la matrice culturelle de l'Occident et de toutes les histoires intellectuelles qui sont nées au sein de l'Occident?
Alors, je crois, Damien Le Guay, que nous avons d'abord tenu à avoir des chapitres, essentiellement dans la première période des premiers siècles du christianisme, sur la christianisation du temps, la christianisation de l'espace, la christianisation de la culture, la christianisation de notre regard sur la société. Alors, pourquoi cela? Parce que on ne peut pas nier que, grosso modo, la chronologie de l'humanité est aujourd'hui marquée par la périodisation avant ou après Jésus-Christ, quelle que soit la date exacte de sa naissance. Et les autres types de comptabilité chronologique, à partir de la fondation du monde, à partir du judaïsme, à partir de l'égire pour l'islam, sont en concurrence, mais n'effacent pas, même dans des pays à dominante, par exemple musulmane, la chronologie avant ou après ce qu'on appelle soit la naissance du Christ ou notre ère, avant notre ère, après notre ère, pour ne pas parler de la naissance du Christ. Mais de surcroît, notre calendrier, notre succession des mois, la durée des mois, nos années bissextiles, vous le savez très bien, Damien Le Guay, ont été déterminées à la fin du XVIe siècle par la réforme qu'on appelle du calendrier grégorien, qui finalement s'est imposée, même aux pays protestants, même aux pays orthodoxes, ils ont été les derniers à garder le calendrier julien, ce qui fait que la révolution d'octobre en Russie a eu lieu au mois de novembre pour notre calendrier grégorien. De même, la christianisation de l'espace. Alors là, il suffit de s'adresser aux Parisiens et de leur rappeler les noms des stations de métro. Lorsqu'on passe de Saint-Lazare à Saint-Placide, à Saint-Sulpice, à Saint-Germain-des-Prés, on ne peut pas nier qu'il y a une christianisation de l'espace. Bon, je plaisante à moitié, mais j'étais très amusé d'apprendre à l'occasion d'un petit travail pour le 350e anniversaire de la mort de Saint-Vincent de Paul que le grand échangeur souterrain sous le boulevard Magenta a failli s'appeler Saint-Vincent de Paul. Mais certains esprits chagrins ont trouvé, ce qui était assez légitime, puisque c'est à Saint-Lazare que Vincent de Paul a créé son admirable œuvre, qui est un modèle d'humanité, de charité, d'organisation pour les plus exclus, les plus démunis, etc. Et qui est un modèle d'humanité, pas seulement propre au catholicisme ou au christianisme. Et on a préféré une appellation d'échangeur magenta, c'est-à-dire une sanglante bataille, plutôt que Saint-Vincent de Paul, parce qu'on trouvait que ça avait une connotation trop religieuse, au type d'une laïcité malentendue qui ne comprend pas ce qui fait la grandeur de la France, aussi bien Voltaire ou le curé Mélier ou Condorcet, que Saint-Vincent de Paul ou Sainte-Jeanne d'Arc. Alors, lorsque je dis que le christianisme a été une des matrices conceptuelles de l'Occident et donc de la planète, c'est parce que, de façon très assurée, et assurée sur des textes, sur des sources, je travaille sur des documents, sur des sources, comment peut-on chercher s'il y a des lois de la nature? Lorsqu'on constate que l'eau bout à 100 degrés dans certaines conditions de pression, comment peut-on penser que cette régularité est une loi? Qui dit loi de la nature va forcément supposer sinon un législateur, du moins un système. Et donc, c'est bien parce qu'il y a l'idée de la création par un Dieu intelligent, non pas seulement une organisation du chaos par le hasard, mais une organisation intelligente, que l'on peut penser qu'il y a des régularités qui sont des lois. Et donc, les travaux qui ont consisté à rechercher les lois physiques, qu'il s'agisse de Galilée, de Descartes, de Leibniz, de Newton, étaient l'œuvre de croyants qui croyaient que Dieu a créé avec ordre, nombre et mesure, et que l'on peut retrouver par l'intelligence humaine cet ordre, ce nombre, cette mesure dans le monde. Prenons un autre domaine, celui de la connaissance de l'homme, la connaissance des passions de l'homme, la connaissance de l'anthropologie, la connaissance de l'homme dans sa déception, dans sa joie, dans sa peine, dans ses tristesses, qui va conduire à sa connaissance plus intérieure que la psychanalyse nous propose. Au départ, c'est parce que nous avons, dans l'Occident chrétien, le modèle de l'incarnation. Nous avons le modèle de Dieu dans l'humanité. Et le travail des premiers pères de l'Église, le travail des conciles des premiers siècles a été d'essayer d'expliquer comment une personne a pu être totalement Dieu et totalement homme, sans pour autant aucune confusion, mais sans séparation totale, et comment des éléments de la volonté, de la mémoire de l'homme ont pu être réutilisés dans la volonté, la mémoire du Dieu, et vice-versa. Et comment la pensée, la souffrance, les sentiments du Christ-homme ont pu avoir une correspondance dans la pensée, les sentiments du Christ Dieu, personne trinitaire. L'incarnation est essentielle pour comprendre la vision de l'homme que l'Occident a développée, y compris et surtout la vision de l'homme dans sa dignité reconnue. Car si l'Occident a pensé l'homme très fortement dans une dignité de liberté, en refusant très tôt l'esclavage dans les milieux chrétiens, dans sa dignité de distinction des sexes, en reconnaissant très tôt, quoi qu'on en dise, aux femmes, bien sûr d'abord les vierges, les veuves, les mères de famille, une dignité et un statut, en reconnaissant très tôt à l'enfant et à l'enfant à naître une dignité et un statut de personne, c'est bien parce que, par l'incarnation, Dieu, d'après les croyants, a donné à l'homme un statut très particulier dans la nature. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'on ne peut pas nier, pour le regretter ou s'en réjouir, que le christianisme a fourni des éléments, pas tous les éléments, mais des éléments qui ont bouilli dans une matrice conceptuelle, dans une marmite conceptuelle, où d'autres éléments de type économique, de type médico-sociologique ont pu aussi contribuer à former la vision que nous avons de l'Occident. Moi, je crois que c'est très intéressant de penser qu'il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour savoir qu'il va y avoir des lois de la flottaison des corps, ce qu'on appelle le principe d'Archimède, il va y avoir des lois, et finalement, quand sur quelque chose qui est aussi incertain que le vent, c'est une expression de la Bible, on ne sait pas d'où il vient ni où il va, on puisse fonder la météo comme une science à peu près exacte. Mais c'est bien parce que dans le livre de Job, Dieu dit qu'il a fixé des lois au vent, à la nature, qui commande à la mer. Si on a recherché des lois pour les marées, c'est bien parce que Dieu commande à la mer et que ce mouvement étrange, inquiétant, de la mer qui monte et qui descend, ça les Méditerranéens n'ont pas trop constaté, mais dès qu'ils sont sortis de leur petite mare centrale, ils ont vu qu'il y avait de grandes marées. Eh bien, vouloir régulariser les marées, essayer de comprendre les causes des marées, chose fort difficile, c'est bien parce qu'on a pensé qu'il y avait des lois derrière, et que c'est pas seulement par hasard que l'eau montait et descendait.
Mais il y a deux choses à prendre en considération, et c'est ce que vous montrez dans cette histoire générale du christianisme. Il y a d'une part, effectivement, la novation de l'incarnation et comment est-ce qu'on pense cette novation-là et les effets que cela peut avoir dans la conscience culturelle et ou sociale des individus. Et puis deuxième chose, c'est là que je voudrais que vous nous éclairiez sur ce point, vous dites le christianisme a fait l'effet d'une serre pour l'éclosion de concepts qui lui sont propres à l'origine et qui sont par la suite devenus les composantes de l'histoire générale des idées. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des éléments qui sont relatifs à ce qui est propre au christianisme et puis par effet de dissémination, par effet de diffusion, par effet même de liberté, ces concepts-là d'origine chrétienne se sont progressivement émancipés, entre guillemets, du christianisme, au point même de ne plus reconnaître ses racines chrétiennes. Et donc, il me semble que dans votre histoire générale du christianisme, il y a à la fois la reconnaissance du caractère matriciel du christianisme sur les cultures, premièrement. Deuxièmement, l'unité du christianisme sous la différence de ses formes. Et troisièmement, ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'idée d'une trame invisible, de quelque chose qui n'est pas nécessairement reconnu par nos contemporains ou par ceux qui les ont précédés, et qui a été pour partie oublié, pour partie occulté, pour partie... Voilà. Et donc je voudrais que vous insistiez sur ce troisième point qui est, est-ce que votre idée-là, c'est de reconnaître ou de mettre en évidence ou de faire reconnaître par nos contemporains que cette histoire du christianisme se prolonge, y compris dans des concepts ou dans des pensées ou dans des auteurs qui pensent avoir échappé à la sphère d'influence, entre guillemets, du christianisme.
Alors, je ne sais pas si l'histoire générale du christianisme va réaliser cette ambition que j'ai essayé de développer dans un livre dont nous avons parlé ensemble, La nature du monde, science neuve et exégèse au XVIIe siècle, que j'ai publié il y a 3 ou 4 ans. Mais il est exact que je vais vous donner un exemple qui est la théorie ondulatoire de la lumière. Voilà quelque chose qui a été très important, l'idée que la lumière ne sont pas seulement des particules, comme du reste dès l'Antiquité on envisageait, mais que ce soit des ondes. Or, le premier à avoir parlé d'ondes en parlant de la lumière, c'est un prêtre oratorien du début du XVIIIe siècle, Nicolas Malebranche, qui utilise ce mot « onde ». On a pu dater à partir de quel moment il parle d'ondes à propos de la lumière. Il appartenait à l'Académie des sciences, d'ailleurs. Et d'où est-ce qu'il tire cela? Eh bien, il tire cela de sa lecture d'Augustin. Et Augustin, qui, reprenant d'ailleurs d'autres penseurs grecs antérieurs, dit que entre le son et la lumière, il y a des analogies. Et que le son se prolonge par des vibrations. Et que la lumière, il y a des vibrations aussi dans la lumière. Il compare cela à la pierre qui tombe dans l'eau. Bon, il prend des exemples très simples. Et les ondes, dit Augustin, de la pierre. Or, c'est une idée très simple. Mais, et là, nous avons le témoignage des plus grands savants, les théories scientifiques les plus complexes proviennent d'idées simples, proviennent d'images simples. Et cette image simple de l'analogie du son et de la lumière, cette image simple de l'exemple de la pierre jetée dans l'eau, voilà qui va permettre à Malebranche de manœuvrer avec l'outil mathématique qu'il avait en main, de manière à fonder, à ébaucher une théorie ondulatoire de la lumière.
Donc vous dites deux choses. La première, c'est qu'il y a à la fois une matrice théologique, c'est ça ? Une matrice théologique qui permet à des scientifiques de penser des phénomènes qui ne sont pas d'ordre théologique, mais qui, quoi, par analogie, par manière de penser, par réflexion, permettent de penser justement le monde et la science, c'est ça ?
Oui, d'origine théologique qui, dans le christianisme, est habituellement scripturaire, d'abord, et lorsqu'on lit dans le psaume 35 « Dans ta lumière, nous verrons la lumière », on pense qu'il peut y avoir deux sortes de lumière, une lumière incréée, la lumière de Dieu, la lumière créée, celle produite par le soleil ou les étoiles, et donc on va pouvoir peut-être trouver même des mots différents pour désigner l'une qu'on va appeler lux, l'autre qu'on va appeler lumen, et ainsi de suite. Donc il y a là toute une construction scientifique qui va s'édifier à partir du psaume 35. Et puis, également, la conviction que cette évolution de la pensée est une évolution positive. Le progrès, la notion de progrès, n'est pas une notion qui date du XVIIIe siècle. Ça portait un nom différent, ça s'appelait la Providence, mais finalement, qu'il s'agisse... Alors, la grande différence entre Providence et progrès, c'est le mot lui-même. Le progrès, c'est un pas en avant, progressus. La Providence, c'est un regard. C'est un regard en avant, c'est un regard porté sur l'avenir. Et c'est là certainement toute la différence entre le christianisme et les idéologies de progrès qui n'ont pas nécessairement réussi au XIXe et au XXe siècle.
Mais on a l'impression, dans cette histoire générale du christianisme, que je n'ai pas lu d'extinso, c'est quand même 1300 pages, donc il faut quand même le lire. J'ai l'impression qu'il y a un double mouvement. D'une part, un christianisme matriciel, donc qui est suffisamment généreux d'une certaine façon pour disséminer au-delà de sa propre sphère culturelle, sans nécessairement rechercher une forme de traçabilité culturelle pour aller s'approprier ou pour aller pointer du doigt tel et tel concept qui serait le sien d'une part, et deuxièmement, une modernité, pour faire vite, qui, voulant affirmer son principe de novation, coupe toute reconnaissance génétique, si l'on veut, de cette filiation. Il y a un double mouvement de dissémination sans à partir d'une matrice au point même de s'oublier, et en même temps un désir moderne d'oublier d'où cette modernité vient.
L'autonomie de la pensée moderne, que vous décrivez parfaitement, Damien Le Guay, est rendue possible par le mode d'appropriation de ces concepts scripturaires et théologiques. Puisque, pour répondre d'ailleurs à votre question de tout à l'heure, Damien Le Guay, cette appropriation se fait sur le mode de la représentation. Et donc le passage n'est pas un passage de comparaison, n'est même pas un passage d'analogie, qui est trop fort comme lien, mais c'est de la représentation. Et la représentation, c'est bien présenter de nouveau et approprier au présent quelque chose du passé. Alors, approprier au présent quelque chose du passé peut donner deux attitudes. Une attitude de type traditionnaliste, entre guillemets, c'est-à-dire rattachant l'événement d'aujourd'hui à ses racines d'hier, ou une attitude de type novateur, donnant à l'aujourd'hui une autonomie d'existence coupée de son existence d'hier. Nécessairement, comme historien, ça fait partie de mon métier de penser dans le premier cas. Et il est évident que l'histoire est extrêmement difficile si l'on voit dans le monde une succession de situations autonomes, détachées, une sorte de type comme un lombric qu'on découpe en petits morceaux, et chaque morceau a sa vie autonome. Et il me semble plus raisonnable de penser en termes d'histoire et de longue durée. Moi, je crois que ce qui est très important, et ce qui, du reste, dans notre vie quotidienne, permet d'expliquer un certain nombre de dérives, c'est qu'il de penser les événements dans la longue durée, de ne pas flotter seulement sur la crête du journal télévisé de la veille, mais de pouvoir resituer dans ces mouvements de moyenne et longue durée qui permettent de comprendre que nous sommes, alors c'est très humiliant pour nous en général et pour les décideurs en particulier, de penser que nous faisons partie, nous sommes portés par une onde de longue durée, nous faisons partie d'une vague de longue durée, que les problèmes actuels de démographie, qui sont fondamentaux dans toutes les questions économiques dont on débat aujourd'hui, mais ces problèmes démographiques sont des problèmes de longue durée. On voit très bien la courbe démographique de l'Occident sur 3 siècles, d'éminents collègues l'ont montré, l'ont étudié, et resituant cela, alors ça ne signifie pas qu'il faille rien faire, mais ça signifie simplement que ça relativise le pouvoir des décideurs, qui se retrouvent avec un mouvement de longue durée dont on peut au mieux essayer d'imaginer la sortie.
Nous allons observer une petite page musicale et nous reprenons donc notre entretien juste après avec Jean-Robert Armangat autour de l'histoire générale du christianisme.
Rencontrer le prix Nobel de médecine 2008, le professeur Luc Montagnier, membre de l'Académie des sciences. Célèbre pour avoir été le directeur du laboratoire qui a découvert en 1983 le VIH, virus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise, le professeur Montagnier revient pour nous sur ses découvertes, nous livre ses opinions sur la médecine d'aujourd'hui et revient sur son rôle dans la libération des infirmières bulgares en Libye. Une émission en habit vert à télécharger dès maintenant sur canalacademy.com.
Donc nous reprenons notre entretien avec Jean-Robert Armangat autour de cette histoire générale du christianisme, donc un double pavé de 2 fois 1500 pages, donc qu'il faut méditer et lire, à un prix tout à fait abordable, puisqu'on est à 48 euros, si je me souviens bien. Donc nous avons insisté préalablement donc, pour essayer de bien synthétiser ou de bien voir quelle était l'ambition générale de cette histoire générale, sur 2 choses. La première, vous avez insisté sur la longue durée. Deuxième chose qui est très frappante, surtout dans le premier tome, la plasticité du christianisme, qui est capable de s'adapter à des aires culturelles différentes. Et troisième point sur lequel nous insistions juste avant la coupure, qui était que d'une certaine façon, nous sommes moins modernes que nous le croyons, et notre modernité est plus chrétienne qu'elle se pense elle-même l'être. Alors je voudrais, pour illustrer quand même cette histoire générale et pour ne pas en rester uniquement à une grande introduction générale, je voudrais que nous puissions prendre 3 éléments ou 3 moments de confrontation. Alors, je rappelle effectivement à nos auditeurs que quand on regarde votre parcours intellectuel, vous avez insisté particulièrement à chaque fois dans les périodes que vous avez regardées de près sur les moments de crise, de rupture, les moments où effectivement la pensée est en train de penser à la fois la rupture et à la fois la continuité. Donc, premier élément dans le premier tome, premier élément de confrontation, le christianisme et les barbares. Alors, on voit bien, tout le monde sait, plus ou moins, mais qui a eu progressivement une avancée du christianisme dans l'Empire barbare, avec des persécutions, on pense à celle de 303-313. Et puis, à un moment donné, Constantin, la réforme, protecteur de l'Église, la société semble être remodelée, d'une certaine façon, par le christianisme, au point même qu'on peut penser que Rome et le christianisme sont interdépendants, enfin que le sort du christianisme dépend du sort de Rome. Et puis, à un moment donné, choc des barbares, invasion barbare, 375-476, sac de Rome, 410, et puis fin de l'Empire romain. Alors comment est-ce que, dans votre histoire générale du christianisme, vous montrez ce choc-là, et comment est-ce que le christianisme, d'une certaine façon, a survécu à cet empire romain qui a été, soit dit en passant, abattu, si je peux prendre cette expression-là, par des barbares qui étaient aussi, on l'oublie souvent, mais qui étaient aussi chrétiens, pas forcément du même christianisme que les Romains, parce que peut-être plus ariens que les autres, mais voilà. Comment est-ce que le christianisme a réussi à surmonter ce choc de la barbarie, des barbares, et comment est-ce qu'elle a réussi à dépasser, d'une certaine façon, cette assimilation qui avait été faite entre l'Empire romain et puis le christianisme?
Le christianisme est allé de crise en crise. Et avant la chute de Rome, il y a eu une crise, Damien Leguet, qui aurait pu être définitive. Ça a été la mort du fondateur. Et donc, ça a été le premier événement, la mort du fondateur, et on sait très bien, dans les choses humaines, que la mort d'un fondateur entraîne toujours de grands problèmes pour la suite de l'entreprise qu'il a fondée. Et j'ai tenu à ce que cette histoire du christianisme s'ouvre sur un prologue qui doit s'appeler Jésus de Nazareth, et qui est l'œuvre de mon collègue Baumgarten, qui enseigne à l'université Bar-Ilan, à Tel Aviv, l'histoire des origines chrétiennes. Baumgarten explique ce que l'on sait du Jésus de l'histoire, et conclut sur la certitude, non seulement qu'il soit mort, c'était il y a 2000 ans, mais la certitude qu'il est mort et qu'il a été tué dans les conditions qui nous sont rapportées par ces textes qu'on appelle les évangiles, et qui sont confirmés par quelques témoignages extérieurs. Ce qui s'est passé, c'est que, comme le rappelle Baumgarten du reste, ses disciples ont cru que malgré cette mise à mort cruelle, il était resté vivant, mais d'un type de vie différent. Ce n'était pas comme son ami Lazare qui l'avait ressuscité du tombeau, mais d'un type de vie différent, ayant gardé à la fois une présence humaine, ce sont ce que les chrétiens appellent les apparitions après la mort et la résurrection, et en même temps une force nouvelle qu'on appelle la gloire en jargon théologique. Et c'est là-dessus que 2000 ans de christianisme ont survécu et ont vécu. Donc ce n'est pas Paul qui a fondé le christianisme, c'est bien d'abord Jésus de Nazareth. Et s'il n'y avait pas eu Jésus de Nazareth et la conviction que des hommes, des femmes, au matin de Pâques, ont eu que l'aventure ne s'était pas terminée le soir du Vendredi Saint sur le Golgotha, le christianisme n'aurait jamais existé, tout Paul qui eût pu exister, qui serait jamais devenu chrétien, puisqu'il n'y aurait pas eu de christianisme. Ensuite, vous nous rappelez très justement que le christianisme a dû s'installer dans la cité, se répandant dans la société méditerranéenne, jusqu'à atteindre des cercles de gens du pouvoir et l'empereur lui-même, Constantin. Et puis, 410, la chute de Rome. Chute de Rome aux mains de chrétiens, vous le rappeliez très justement, Damien Leguet, mais que quelqu'un comme Saint Jérôme et même Augustin vont penser être la fin d'un monde. La fin d'un monde, parce que ce qui finit, ce n'est pas tant la prise de Rome par d'autres chrétiens, que la fin de l'Empire romain que l'on pensait être un Reich pour l'éternité et qui va s'écrouler, se diviser entre Orient et Occident, se morceler avec l'effort de Karl, que les Français appellent Charles, à Aachen, Aix-la-Chapelle, pour avoir de nouveau une sorte de nouveau royaume impérial. Toutes ces tentatives qui ne vont pas empêcher la désagrégation, disons, du tissu politique, économique et commercial créé par l'Empire romain. Or, nous constatons que le christianisme, par une extraordinaire plasticité de structure, survit aux modes successifs de régimes politiques sur lesquels il semblait s'appuyer. Il paraissait avoir pour tuteur l'Empire romain, l'Empire carolingien, et puis lorsque ces tuteurs s'écroulent, ou si vous voulez l'Ancien Régime dans l'Europe du XVIIIe siècle, lorsque ces tuteurs politiques s'écroulent, le christianisme ne disparaît pas pour autant et va migrer, si j'ose dire, soit vers d'autres formes de pouvoir, soit même, et ce fut le cas au tournant du premier millénaire, vers une autonomie de sa propre organisation qui va tenir. Les tuteurs ont disparu, le plan christianisme continue de rester droit et de pousser. Alors, on peut y trouver des raisons surnaturelles, mais en tant qu'historien, je pense qu'il s'agit surtout de l'organisation même du christianisme dans le réalisme dont l'organisation des communautés a fait preuve. Nous avons là un système d'organisation qui, alors que nous pouvons le comparer à une autre grande religion qui a également conquis d'immenses espaces, l'islam. Il me semble que l'islam s'avance sans qu'il y ait nécessairement de grands mouvements de conversion. L'islam accepte très bien de garder dans une situation de suggestion d'autres religions, qu'il s'agisse de chrétiens, de juifs ou de zoroastriens ou de mazdéens. Mais il y a un ordre musulman qui s'installe dans les terres d'islam. Or, le christianisme, dans son avancée missionnaire, n'a pas procédé de cette manière. Et il est très frappant que les exemples que nous avons de réutilisation par l'islam de hiérarchies sociales chrétiennes déjà existantes, je pense à Damas, Jean de Damas, fonctionnaire chrétien, et même saint, et grand écrivain chrétien, mais chrétien fonctionnaire dans un État musulman. Or là, il s'agit de reproduire des choses que l'islam emprunte à Byzance et emprunte au système chrétien qui le maintient pour percevoir l'impôt, pour garder l'ordre dans les provinces, des hiérarchies déjà existantes, fussent-elles des hiérarchies chrétiennes. Et le christianisme, lui, va procéder par un appel direct aux personnes, et alors traversons des siècles, et prenons le 20e et le 21e siècle. Regardons l'Afrique, francophone ou anglophone, et constatons que les grands chefs, on dit leaders je crois, les grands chefs qui ont permis, dans des conditions difficiles, discutables, etc., à un certain nombre de pays africains de vivre l'indépendance et l'autonomie, sont des hommes, pour la plupart, qui ont été formés par des institutions chrétiennes. Donc on peut penser tout le mal qu'on veut des missionnaires. Je constate que les missionnaires, qui sont les mêmes qui ont donné à l'ethnologie ses lettres de noblesse, qui sont les mêmes qui ont préservé et sauvé des dizaines de langues qui allaient disparaître en faisant des dictionnaires, en traduisant, alors ils traduisaient l'évangile évidemment, mais en traduisant des textes dans, et produisant des textes et imprimant des textes dans ces langues. On oublie souvent, je le rappelle dans notre histoire générale du christianisme qui vient de paraître presque une incidère de France, que ce sont les luthériens de Halle en Saxe qui ont imprimé les premiers livres en bengali, en ourdou, en hindi. Alors, ils imprimaient les catéchismes, ils imprimaient le Nouveau Testament, mais ils ont donné à ces langues qui auraient pu disparaître le statut de la légitimité de l'imprimerie, ce qui est extrêmement important, évidemment, pour la survie d'une langue. On oublie que les premiers textes imprimés dans ces langues, c'était des textes chrétiens imprimés en Saxe par des missionnaires luthériens. Donc, ces missionnaires qui ont été les premiers ethnologues, qui ont été les premiers linguistes et qui ont sauvé des langues, ont été également ceux qui ont formé les élites de ces pays, je pense en particulier à beaucoup de pays africains, dont les élites catholiques, protestantes, anglicanes ont été fondées, ont été éduquées par l'intervention de collèges religieux, de lycées religieux. Tout cela parce que il y a eu une volonté de donner aux indigènes, aux clergés indigènes, c'était la volonté explicite de Pie XII au milieu du XXe siècle, non seulement un légitime accès aux connaissances du savoir, mais aussi un accès à la hiérarchie catholique en ayant des évêques indigènes, si possible, dans chaque pays. Le christianisme, qu'il s'agisse du catholicisme ou de l'orthodoxie, notre ouvrage traite des missions orthodoxes en Sibérie, qui sont souvent oubliées dans l'action missionnaire des églises orthodoxes, ou bien les églises de la Réforme, ont donné un tissu de développement autonome à des pays. Alors tout ça pour revenir aux barbares, à savoir, le christianisme a montré une grande plasticité d'organisation, lui permettant de passer d'un régime de gouvernement à un autre régime de gouvernement, ou même de se passer de tout régime de gouvernement. Et en particulier, l'organisation pontificale qui se met en place au moment où il n'y a plus de grands régimes de gouvernement sur lesquels s'appuyer, 10e, 11e siècle, et nous avons ce qu'on appelle la réforme de Grégoire, la réforme grégorienne, qui met en place un système dont on a pu trouver qu'il était un système théocratique, hiérarchique, totalitaire, tout ce qu'on voudra, mais qui a permis, en tout cas, au christianisme de traverser, à l'Église catholique d'abord, et puis les Églises de la Réforme, de traverser les siècles sans avoir la dépendance que, par exemple, les Églises de l'Orthodoxie ont dû accepter de la part des pouvoirs locaux.
Je voudrais revenir sur un point en ce qui concerne effectivement ce choc des barbares. Vous avez employé un terme qui est celui de la dignité. Est-ce qu'il n'y a pas, et on le voit dans le début de votre histoire générale du christianisme, est-ce qu'il n'y a pas la question de la dignité, de la reconnaissance par le christianisme de la dignité de l'autre? C'est-à-dire, effectivement, la dignité est celle des juifs et seulement des juifs. À partir de quel moment est-ce que cette dignité qui est celle du christianisme s'applique aussi aux païens, à ceux qui sont en dehors de la sphère des juifs, d'une part? Et deuxièmement, avec le choc des barbares, à partir de quel moment, Augustin, quel moment est-ce que les barbares, qui sont en dehors de la civilisation, en dehors de Rome, qui sont représentés beaucoup comme des êtres juste dignes d'être rejetés loin de la civilisation qui est la civilisation romaine, sont-ils reconnus, ces barbares, comme étant objets de dignité et faisant et permettant de faire appel à la proposition chrétienne du salut pour tous? On a l'impression qu'il y a ce déplacement progressif qui explique aussi la plasticité dont vous parlez. Il y a un discours théologique, il y a une compréhension de la dignité qui s'applique à des individus qui, de plus en plus loin, sont considérés comme sortant ou n'étant pas encore dans la civilisation, dans la dignité que l'on peut reconnaître à des hommes qui ne sont pas nécessairement reconnus comme tels par les autres.
La réponse à la question que vous posez, Damien Le Guay, se trouve d'abord dans saint Paul, qui affirme avec force qu'il n'y a plus de juifs, ni de barbares, ni de grecs. Il ajoute même ni homme ni femme. Bon. Mais il y a cette unité dans le regard de Dieu que le baptême chrétien confère. Et puis, en second lieu, on se rend compte que ce qui a unifié, barbare ou pas, c'est la langue latine. Et le grec dans la partie orientale de l'Empire, mais c'est la latinité et la latinité des écrivains. Car finalement, la grande littérature latine des 5e, 6e, 7e siècle, ce sont des barbares, entre guillemets. Le fondateur de l'histoire moderne, c'est Bède le Vénérable, qui nous vient des îles anglaises. Nous avons des grands poètes qui viennent, qui apparaissent chez les Saxons, qui apparaissent en Aquitaine, qui apparaissent au-delà des Pyrénées. Nous avons le patron d'Internet, Isidore de Séville, la grande figure dont les étymologies ont un système de renvoi à l'intérieur qui a fait penser à la toile électronique. Et je pense que ce qui a fait l'unité, c'est aussi la langue et la langue latine. Et ça, nous voyons par les correspondances, cette importance des correspondances, de la correspondance d'Augustin, celle de Jérôme. Nous voyons très bien comment le latin est un facteur d'unification, par-delà la reconnaissance théorique, mais qui encore une fois date de Paul, de l'unité du genre humain par le baptême.
Oui, qui ne va pas de soi. Enfin, cette unité ne va pas de soi. Enfin, elle n'est pas accepté par Rome, par les Romains, par ceux qui veulent promouvoir cette civilisation romaine jusqu'aux limites de la civilisation, considérant qu'au-delà, il y a effectivement des barbares. Je voudrais en venir à la deuxième confrontation, enfin, qui effectivement a retenu mon attention, qui est celle, alors qui vous concerne plus, parce que c'est votre période de prédilection, à savoir le XVIe siècle, le moment des ébranlements, le moment où, je vous cite, les grands paradigmes modernes se mettent en place à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, des nouvelles questions apparaissent, etc. Bon. Alors, qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là, au XVIe siècle? Qu'est-ce qui apparaît à ce moment-là? Et comment est-ce que le christianisme, parce que vous parlez du christianisme, comment est-ce que le christianisme répond à ce moment charnière, cette confrontation, ce décentrement dans la représentation que nous avons de l'univers en particulier? Voilà.
Alors, un tremblement de terre s'est produit en 1492, qui a lancé des ondes de choc à travers tout le XVIe siècle. C'est, comme je le dis souvent, le moment où l'Amérique a découvert l'Europe. C'est Christophe Colomb, ce qu'on appelle encuentro maintenant, pour équilibrer les deux parties, la rencontre entre l'Amérique et l'Europe. Pourquoi? Parce qu'on découvre à ce moment-là que le monde est plein. On découvre que le monde est plein. Il n'y a plus d'espace pour faire rêver. Et c'est bien pour cela qu'une trentaine d'années plus tard, Thomas More, chancelier d'Angleterre, écrit Utopia, le premier livre portant ce titre. D'autres vont porter ce titre plus tard, mais le premier portant ce titre, Utopia, autrement dit, on rompt le monde est plein. Le rêve doit aller se situer ailleurs. Alors ça sera les États et l'Empire de la Lune et du Soleil pour Cyrano de Bergerac, bon, mais il faut se situer ailleurs. Premier point. Deuxième point, j'ai souvent cité une comédie napolitaine d'Arlequin qui s'intitule « L'Empereur du Soleil » et dont le refrain c'est « Là-bas, c'est comme ici ». Là-bas, c'est comme ici. Alors du reste, je cite Arlequin et une arlequinade, ça pourrait être vulgaire, mais j'ai un bon auteur qui s'y est intéressé, c'est Leibniz, qui trouvait que c'était très important et qui cite justement cette parole d'Arlequin, « Là-bas, c'est comme ici ». Alors la scène est assez comique. Arlequin, voulant épouser la fille d'un riche docteur, passe pour l'empereur du soleil et le docteur en question lui demande comment ça se passe dans le soleil, comment sont les hommes, les femmes, les domestiques, les militaires, les notaires, les usuriers. Et Arlequin dit « Là-bas, c'est comme ici, tout comme ici, tout comme ici. Là-bas, c'est comme ici ». Alors donc, ce monde plein est un monde extraordinairement banal. On n'a pas trouvé dans le Nouveau Monde des saints, on a trouvé des personnes, et on a trouvé de l'or bien sûr, mais on a trouvé des personnes comme nous. Alors ça c'est un point qui est très important et qui va envoyer une onde de choc à travers tout le XVIe siècle. Moi je vois que les grandes découvertes...
Mais ceci dit, ça repose la question effectivement de savoir si les Indiens, si ces nouveaux peuples sont appelés à être reconnus comme humains ou pas.
Alors c'est très important parce qu'on se trouve pour la première fois en face de païens. L'autre, c'était le juif et le musulman. Les païens, on les connaissait parce qu'on lisait Cicéron. Et voilà qu'on découvre des gens qui sont ni juifs ni musulmans. Et c'est un grand choc théologique. Il existe, je crois avoir essayé de le montrer, une théologie du Nouveau Monde, une théologie catholique du Nouveau Monde, élaborée par les jésuites dans les universités de Lima, de Tucumã, qui tient compte de ces éléments nouveaux, le statut du païen, qui n'est pas seulement le païen idéal dont on lit la description chez Cicéron ou dont Augustin parle, mais qui est une personne qu'on a en face. Et il s'agit là de reconnaître, ce sont les grands débats que l'on connaît bien, sur les droits des Indiens, sur la dispute de Salamanque, et sur les droits de ces peuples nouveaux à ne pas être exploités, à ne pas être réduits en esclavage, et donc la reconnaissance de leur humanité avant même qu'ils ne reçoivent le baptême. La reconnaissance de leur humanité, et ils ne reçoivent le baptême de fait que parce que ce sont des êtres humains. Ça, je crois que c'est très clair chez Las Cases, cette affirmation de l'humanité des indigènes, comme on disait. Or, ce grand mouvement qui s'accompagne chronologiquement de grandes découvertes technologiques, qui s'accompagnent de grandes découvertes théoriques, qui vont donner la naissance à la fois d'une part aux grandes réformes protestantes, d'autre part à la réformation interne de l'Église catholique dans sa tête comme dans ses membres, comme on disait, par le Concile de Trente, mais aussi la réforme des ordres religieux, mais aussi la grande réforme mystique de Thérèse d'Avila ou de Jean de la Croix, qui va donner la grande floraison mystique, spirituelle du XVIIe siècle. Bon, tout cela pour dire que c'est l'accouchement d'un monde nouveau, et que de façon très curieuse, le christianisme ne périt pas dans cet accouchement. Alors il ne périt pas dans cet accouchement, d'abord parce qu'il est l'accoucheur. Les grands savants sont issus des lieux d'église. Les grands savants sont des chrétiens, qu'il s'agisse de Galilée, de Descartes, de Leibniz, de Newton. Non seulement sont des chrétiens, mais sont des chrétiens patentés, qui lisent l'Écriture sainte. On a fait la liste de l'usage chez Descartes, de passages de l'Écriture, ça occupe plusieurs pages. Newton a consacré beaucoup plus de pages à des commentaires de l'Écriture qu'à des écrits mathématiques ou physiques. Leibniz, on le sait, est passionné par les questions religieuses et par ce rêve de l'écuménisme qui traverse son œuvre. Boyle, Robert Boyle, le grand chimiste anglais, est aussi un homme pieux. Donc l'Église, le christianisme, les Églises sont les accoucheurs de cette nouvelle sage-femme, si vous voulez, de cette nouvelle société. Et puis, cette nouvelle société va retransmettre des valeurs qui sont au départ des valeurs chrétiennes. On s'est interrogé, on a appelé une récupération des propos tenus par Jean-Marie Lustiger sur liberté, égalité, fraternité comme étant des concepts d'origine chrétienne. Il avait historiquement parfaitement raison. Alors, on a perçu ça comme une récupération par l'Église de l'héritage laïque, mais cet héritage, d'où venait-il ? C'était le patrimoine religieux, qui était l'héritage de la laïcité. Et c'est peut-être ça, dans le fond, Damien Le Guay, la force des concepts chrétiens. Ils sont capables, étant coupés de leur base et déracinés, d'avoir une vie propre et de se développer dans nos sociétés. Moi, je suis très frappé sur un point précis dont je débattais il y a quelques jours, l'instauration des monts de piété. Voilà une entreprise typiquement chrétienne, catholique, au XVIe siècle, on met en place les monts de piété pour lutter contre l'usure et pour permettre de dégager des crédits. En portant votre montre en or au mont de piété, on va vous donner des sous. Et quand vous aurez assez de sous, vous pourrez même récupérer votre montre contre l'argent que vous allez rendre. Et on ne va pas vous prendre des taux extrêmement élevés, puisque précisément il y a une sorte de tour permanent, l'argent qu'on vous prête, c'est l'argent que le possesseur a rendu. Or ce système du monde de piété est un système où j'étais très surpris dans une réunion récente d'entendre des économistes, des banquiers, prôner en termes de microéconomie, de micro-projets, de prôner ce type de système dont je leur disais, mais c'est très impressionnant, c'est très intéressant, mais vous savez, les monts de piété, c'est comme ça que ça fonctionnait, et c'est comme ça au départ que ça a été lancé pour éviter, pour lutter contre l'usure, des gens qui prêtaient à 300%, bon, et puis, et en même temps, pour fournir de l'argent frais sur le marché et donc lancer de nouvelles opérations. Alors, je crois que le monde de piété est un bon exemple de quelque chose qui vient, et il y a dans l'histoire générale du christianisme que je viens de publier aux presses du ministère de France, il y a un chapitre important sur les chrétiens et l'argent, qui nous montre comment le souci biblique de lutter contre l'usure, le souci biblique de l'équité entre le lien entre travail et propriété, le souci biblique de protection du plus faible a été intégré dans un système économique moderne et va se développer de façon autonome pour gérer des projets, des rapports à l'argent qui ont perdu leurs racines chrétiennes, mais qui continuent d'être des projets soucieux de l'équité, de la justice et de la dignité des personnes auxquelles elles s'adressent.
Je voudrais qu'on termine notre entretien sur un troisième moment, qui est effectivement le choc du christianisme et des Lumières. Alors vous dites, les Lumières comportaient une dimension antichrétienne, mais elles ont aussi tenté une réforme éclairée du christianisme. Alors il y a quelques éléments que vous distinguez. Le premier, c'est qu'il faut distinguer là aussi différentes Lumières, les Lumières qui sont opposées frontalement au christianisme, et puis les Lumières plutôt d'origine allemande, qui, elles, ne voient pas d'opposition claire entre la raison critique et, effectivement, la raison religieuse. L'autre point, c'est que vous insistez aussi, dans cette histoire générale du christianisme, sur l'idée suivant laquelle les anti-Lumières ne sont pas contraires aux Lumières, mais de façon leur apporte une forme de contradiction, voilà, en essayant de remettre un peu les Lumières dans le bon chemin. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce choc, cette confrontation-là entre christianisme et Lumière qui conduit, disons jusqu'à maintenant, à considérer qu'il y a sans doute une antinomie, c'est du moins ce que nos contemporains pensent, une antinomie entre christianisme et Lumière et ou raison. Et on en revient à notre problématique et à notre question du début sur effectivement la religion ou les religions. Sont-elles du domaine uniquement de la foi, donc de la croyance individuelle et singulière, ou participe-t-elle à un mouvement de civilisation, de croyance, et qui met en avant la raison? Donc comment est-ce que vous voyez, un, ce choc-là, et puis à un moment donné, ce choc qui ne se fait pas en faveur du christianisme, mais qui semble se retourner contre le christianisme, au point de reléguer le dit christianisme dans la sphère privée?
Vous posez là une énorme question,
oui,
Damien
oui,
Le Guay.
Oui, non, parce que comme votre histoire générale du christianisme couvre 2000 ans, donc forcément, on est obligé d'aller vite
sur des vastes
questions.
Je vais essayer de répondre très brièvement à la très vaste question que vous me posez, Damien Le Guay. D'une part, je remarquerai que le mot « lumière » est un mot propre à la problématique française, et vous avez vu que dans cette histoire générale du christianisme, en ont traité un Allemand, Geisler, et un Italien, Menozzi. Ça a été mon souci souvent d'avoir des regards croisés, demander précisément à des non-français de traiter de ces questions. Or, le mot lumière est bien difficile à traduire dans d'autres langues. Aufklärung n'est pas exactement lumière. Illuminisme en italien, illustration en espagnol ne correspond pas tout à fait à ce qu'on entend par lumière, de même que le mot philosophe qui en français a un sens précis au XVIIIe siècle, le siècle des philosophes, Diderot, d'Alembert, Helvétius, d'Holbach, qui a un sens différent. Bien sûr, en italien, ou en anglais, ou en allemand. ce qu'il faut constater, c'est deux choses. D'abord que les méthodes critiques que les Lumières vont utiliser pour déconstruire le discours chrétien sont elles-mêmes des méthodes chrétiennes. L'élaboration de la critique textuelle a d'abord été sur la Bible, l'élaboration de la critique historique a été d'abord sur la géographie, sur les vies des saints, et c'est de là, autour de ces questions, le texte biblique, l'histoire de l'Église, l'histoire des saints, que les outils de la connaissance historique moderne ont été mis en place. Ces outils ont été utilisés pour déconstruire le christianisme. En second lieu, ces mêmes outils étant en place, sont utilisés par les chrétiens. Vous disiez très justement que les anti-lumières ne sont pas des ténèbres, mais sont des feux croisés. Ce sont des feux croisés qui s'opposent aux lumières sur leur terrain. Ce qui ne donne pas nécessairement les meilleurs résultats, j'en conviens volontiers. Mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il y a, à côté de Voltaire, des gens que Voltaire raille avec un grand talent, mais qui eux-mêmes ne sont pas négligeables, pour ne pas procéder à un tour encyclopédique, je me contente de parler de l'abbé Berger, qui n'est pas un personnage négligeable et dont le dictionnaire de théologie a été réimprimé au XIXe siècle avec constance et qui n'est pas nécessairement un recueil de sottises. Et je voulais seulement me dire cela, à savoir que si Chateaubriand peut écrire le génie du christianisme, et si le christianisme, et en particulier le catholicisme, peut revivre après le cataclysme européen de la Révolution française, non seulement un cataclysme anti-religieux et anti-catholique, mais un cataclysme qui, par la constitution civile du clergé, a divisé le clergé catholique lui-même et les catholiques entre eux. Donc ce n'était pas seulement une persécution venant de l'extérieur, mais c'était une division du catholicisme à l'intérieur même. Si ce catholicisme a pu produire les fruits du XIXe siècle, et en particulier le catholicisme social, donc en face de la révolution industrielle, le refus du travail des femmes, le refus du travail des enfants, l'affirmation de la dignité de ceux que Léon XIII appelle les prolétaires, prolétari, c'est lui qui crée le mot dans Rerum Novarum, c'est bien parce que il y avait des choses qui ont permis au christianisme de passer le cap de ce cataclysme et de durer. Et ça veut dire que les notions critiques fortes des Lumières étaient aussi présentes dans ces anti-Lumières et ont pu traverser les 20 ans ou les 15 ans de la Révolution pour redonner des fruits au-delà et tout au long d'un 19e siècle catholique. Et je pense que les pages consacrées par l'histoire générale du christianisme au catholicisme du 19e siècle sont souvent très neuves et apprendront certainement à nos auditeurs pas mal de choses sur la vitalité du christianisme au 19e siècle, alors qu'on serait porté à en voir en lui un siècle athée, un siècle de refus, le grand siècle des révolutions de Proudhon à Marx et Jaurès. Il y a un travail de fond qui se fait dans le catholicisme, dans le protestantisme du XIXe siècle et aussi dans les églises orthodoxes. Et l'immense produit de la littérature russe est étroitement lié, nous le rappelons dans l'histoire générale de la christianisme, à l'épanouissement de l'orthodoxie. C'est du reste, la place de l'orthodoxie et des églises orientales dans cette histoire générale du christianisme est considérable, ce qui est un apport tout à fait original, je crois.
Mais donc, on en revient à la même problématique, et ce sera notre mot de la fin. Il semble que dans cette histoire générale du christianisme, que le christianisme invente des outils, des méthodes critiques, des concepts qui, d'une certaine façon, permettent de se passer de lui, donc du christianisme lui-même, parce que justement, cette promotion sans doute des outils, des concepts, etc., font en sorte que, à un moment donné, ne sentant plus le lien avec le christianisme, les enfants ou les arrière-petits-enfants ou les arrière-arrière-petits-enfants du christianisme semblent vouloir et ont les moyens de se passer du christianisme lui-même.
Votre remarque est très juste, Damien Legay, parce que c'est précisément là le paradoxe du christianisme, inauguré par le paradoxe d'un homme qui est Dieu, d'un Dieu qui est homme. C'est là le paradoxe du christianisme, forger les instruments qui permettent de se passer de lui et néanmoins continuer d'exister. Là, nous sommes en plein, je crois, vous avez défini très bien ce qu'est le paradoxe du christianisme. Il met en place, dans les sociétés et dans les cultures, ce qui permet de durer, d'exister et de se passer de lui. Et pourtant, il est toujours là avec une radicalité renouvelée et avec une plasticité, c'est le mot que j'ai déjà employé, qui lui permet d'avoir aujourd'hui encore, de donner aujourd'hui encore des visages nouveaux de la charité, des visages nouveaux de l'attention aux personnes qui se renouvellent et qui font que le christianisme appartient inexorablement à l'arrière-plan de nos sociétés. Il apparaît à l'arrière-plan de nos sociétés. Il apparaît à l'arrière-plan de nos sociétés comme une sorte de bruit de fond, d'onde de fond, en ayant fourni matière à ces concepts scientifiques et sociopolitiques et psychologiques qui nous organisent. Mais aussi, il apparaît parfois au premier plan, dans les sociétés qui finalement, si elles peuvent se passer de lui, ne peuvent jamais vraiment se passer tout le temps de lui.
Eh bien, nous allons terminer donc notre entretien. Je rappelle donc, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, je l'ai dit, mais vous êtes donc le maître d'œuvre, pas tout seul, mais le maître d'œuvre de cette histoire générale du christianisme en 2 tomes, donc au PUF qui vient de paraître, 3000 pages, 80 collaborateurs, dont 32 étrangers, et qui effectivement, cette histoire générale du christianisme correspond ou répond à une attente qui est celle de, sans doute, ce soubassement de notre modernité qui est le nôtre, et puis de mieux connaître, ce qui peut-être n'a pas été fait jusqu'à présent, de mieux connaître quel est ce christianisme dont nous héritons et que nous avons tendance, par le fait même du christianisme lui-même, à oublier effectivement son apport culturel. Jean-Robert Ramogat, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et puis nous renvoyons donc tous nos auditeurs à cette histoire générale du christianisme.
Merci Damien Leguet.